RCFM, Christine Aloudzi, les experts.
Et bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans les experts en ce début de semaine. Toute l'équipe est avec moi, Carole au standard, Alicia à la technique. La révolution numérique n'a pas épargné les familles. En quelques années seulement, les écrans ont envahi les chambres de nos enfants, petits et grands. Pas étonnant dès lors que la tablette soit le jouet le plus vendu et détrône la Barbie dans le cœur de nos chères têtes blondes. Faut-il pour autant s'en inquiéter? De nombreux experts alertent les parents sur une utilisation abusive qui ne serait pas sans risque pour le développement de nos enfants. Mais quels sont réellement les dangers d'une surexposition aux écrans connectés ou à la télévision? À quel moment faut-il s'alarmer? Comment protéger nos enfants de possibles dérives? C'est notre dossier du jour, 04 95 32 22 22. Vous pouvez réagir, témoigner ou poser toutes vos questions à notre invité ou sur nos réseaux sociaux France Bleu RCFM.
Les experts, 9h30, 10h30, Christine Aloudzi.
Vos questions, les réponses de nos experts sur RCFM.
Mamma, bella come a trent'anni, anch'io vi ho rimpetto, colti da marina. Ieri ho come avuto, questo cappello nero, che curava un paese, tra mezzo alle vigne. Un fiume di la vita, corre troppo in furia, e odiano tutta due i capelli di nebbia. Ma io vivevo sempre con l'occhio d'un sidello, e quando penso a te mi viene la nostalgia. Io voglio un solaio e un vecchio scalone, a casa dove ho sonnato un palazzo. Regali per Natale ce n'era poche mica, ma io campato qui i più bell'anni da boida. Non era la miseria, ben chi s'assomigliava, ma c'era sempre un sole o c'era l'amicizia. Paese verso, isto paese caro, quando penso a che viene nostalgia, ma quando penso a te, quando mi scappo vento, tutto sta male verso, mi ne posso scordare. Quando penso a te, si calmano i venti, si spegnono i voli, lascia nostalgia. E rivedo i vecchi che se ne sono andati, perse macchie fiorite quassù paradiso. S'hanno lasciato qui troppo piazze e ore, né di Gesù Cristo parlerà ancora su. Du messe spadriato, Antone se ne è morto, e poi a scuola alla nugliosa non c'era che tre zitti. Un pinzu da comprato e Ruggero mulino, e quando penso a que viene nostalgia, ma quando penso a te, tanto mi scappo vento, tutto st'amore verso mi ne posso scordare. Quando penso a te, si calmano i venti, si spegnono i fuochi, e nasce nostalgia, la nostalgia. La nostalgia.
Michel Mallory, nostalgia.
Vos questions, les réponses de nos experts sur RCFM.
Que risquent les jeunes aujourd'hui à jouer avec les smartphones? Au-delà de combien de temps l'exposition aux écrans est-elle nocive pour les enfants? Comment restreindre l'accès aux jeux vidéo et aux tablettes? L'enfant et les écrans, vaste sujet de discussion familiale, mais pas seulement. C'est notre dossier du jour et on va parler de ça avec notre expert et quel expert, Michel Desmurgés, bonjour.
Bonjour.
Michel Desmurgés, vous êtes docteur en neurosciences, directeur de recherche à l'INSERM et vous avez publié La fabrique du crétin digital, les dangers des écrans pour nos enfants aux éditions Seuil, 424 pages accablantes dans 77 pages de notes bibliographiques. Pour vous, la situation de surexposition des enfants aux écrans est grave et même désespérée.
Oh, désespéré, je sais pas, je vous aurais dit désespéré il y a 2 ans.
Ah,
j'ai l'impression quand même que...
Il y a une prise de conscience quand même.
Ouais, je crois qu'il y a une prise de conscience qui est en train de se faire, pas tellement du fait du bouquin d'ailleurs, mais du fait que bah, ça commence à se voir. C'est-à-dire pendant longtemps, on a eu tout ce baratin marketing sur le digital native, sur nos enfants mutants, sur le fait qu'ils avaient un cerveau différent. Et puis, bah, il y a un moment donné où le principe de réalité a tendance un peu à nous rattraper. Et voilà, les parents, les enseignants, les professionnels de l'enfance, les orthophonistes bah, voient bien qu'il y a quelques problèmes. Il y a des problèmes de langage, il y a des problèmes d'attention, des enfants qui ont du mal à mémoriser, etc. Des problèmes de santé aussi. Et voilà. Et le fait que ça commence à se voir, je suis un peu moins pessimiste que je ne l'aurais été. Il y a quelques années, parce que j'ai l'impression que la collectivité commence à prendre un peu la mesure du problème. Alors pas autant que ça serait nécessaire, mais un peu.
Est-ce que justement ces enfants qui ont été ces quelques années là où justement il n'y avait pas de prise de conscience, exposés à ces écrans surexposés, est-ce que quelque part on va pouvoir rattraper, est-ce que c'est foutu pour eux en quelque sorte?
Je dirais pas que c'est foutu, mais il y a des fenêtres qu'on appelle l'ontogenèse, c'est-à-dire qu'il y a des fenêtres de développement, il y a des fenêtres au moment où le cerveau il est prêt à recevoir une certaine nourriture, un certain type d'apprentissage, un certain type de données. Et c'est vrai que par exemple pour le langage, pour la syntaxe, etc., ça se fait assez précocement. Et si vous ratez ces fenêtres-là, ou si le cerveau n'est pas suffisamment nourri, ça va pas être perdu, mais ça veut dire que le travail qui va être nécessaire après pour remettre tout ça en place va être infiniment supérieur à ce qu'il aurait été si ces choses-là avaient été faites au bon endroit. Après, ça dépend ce qu'on entend par surexposition, mais à partir d'un certain niveau d'exposition, bah, les choses deviennent difficiles à rattraper.
Quand on lit votre livre, on hallucine un petit peu quand même. Un élève de maternelle qui passe environ 1000 heures devant un écran, un élève de CM1, CM2, 1700 heures et un lycéen 2400 heures. Bon, ce sont les mêmes chiffres en Allemagne, aux États-Unis. Et puis en plus, ce sont des chiffres qui sont déclaratifs. Donc, est-ce que c'est pas plus même, Michel Desmurgés?
Pardon. Alors il y a une partie de ces chiffres, une même partie qui sont déclaratifs, mais en fait ces chiffres déclaratifs retombent assez bien avec les valeurs qu'on enregistre, parce que dans certaines études, elles sont pas complètes, ça a été fait pour la télé, pour les smartphones, pour les tablettes, on enregistre le temps effectif et on retombe à peu près, alors à quelques minutes près, on retombe à peu près sur les mêmes données. Ce qui est intéressant, c'est que non seulement c'est beaucoup, mais c'est juste extravagant, c'est hors de contrôle.
Oui, parce qu'on nous dit il faut faire attention à l'excès, mais là on est au-delà de l'excès.
on est dans la folie furieuse. Et ce qui est intéressant et ce qui est plutôt alarmant, c'est que ça ne cesse d'augmenter. C'est-à-dire qu'il y a une tranche d'âge. Il y a eu cette campagne là, pas d'écran avant 3 ans. Je crois que vous avez dû entendre
parler de ça.
En France. Et alors c'est quand même un coup marketing assez génial. Je dis pas que tous les gens qui l'ont signé pour le coup marketing. Il y en a qui l'ont fait de bonne foi, mais parce que ce qu'on vous dit réellement, c'est avant 3 ans, c'est pas très bon, mais avant 3 ans, ces gamins, ils sont pas très intéressants pour les annonceurs, etc. Ça a été assez bien montré. Parce qu'ils mémorisent pas les marques, parce que plein de raisons. Et après 3 ans, ils deviennent intéressants. Donc on peut montrer ses muscles en disant, moi je suis honnête, je vous dis la vérité, regardez. Mais ce qu'on entend quand on vous dit pas avant 3 ans, c'est après, vous pouvez y aller. Le vrai message, il est là. Et ce qui est intéressant, c'est que si on regarde depuis une quinzaine d'années les études, entre les 0, 2 ans compris, jusqu'à 3 ans, ça a pas augmenté. Mais après, ça augmente de façon surréaliste.
Mais c'est ça.
Et il n'y a pas de raison qu'il y ait une césure à 3 ans. C'est tout aussi délétère à 5, à 6, à 10 que ça peut l'être à 3. Alors les raisons, les causes, les mécanismes impliqués sont pas tout à fait les mêmes. Cela étant dit, c'est pas moins mauvais, entre guillemets, pour un enfant de 10 ans que ça peut l'être pour un enfant de 8 ans, que ça peut l'être pour un enfant de 3 ans.
Du coup, Michel Desmurgés, quand vous parlez d'écran, est-ce que ce sont essentiellement les écrans récréatifs ou est-ce que tous les écrans ont les mêmes effets néfastes ?
Non, alors il s'agit pas de faire une crise de technophobie aiguë,
réactionnaire,
ou voilà. L'idée, non, mais je comprends bien, je sais que c'est pas ce que vous voulez dire, mais souvent c'est ce que les gens comprennent, c'est un peu ennuyeux. C'est-à-dire que il y a effectivement des éléments extrêmement positifs dans ce qu'ils ont appelé la révolution numérique. Le numérique, effectivement, c'est un gain pour plein de gens. Moi, vous m'enlevez mes écrans au travail et j'ai beaucoup de problèmes. J'ai des bases de données, j'ai des outils de modélisation, j'ai des outils qui me permettent de faire en 3 minutes ce que je faisais avant à la main en plusieurs semaines. Donc il n'est pas question de revenir là-dessus. Word, c'est un truc génial, enfin, les outils de traitement de texte, etc. Donc la question, c'est pas de revenir sur ces outils-là. La question après, c'est de voir comment les écrans sont utilisés et ce qu'en font les gamins. Et quand on regarde les études, en fait, tout à l'heure, j'entendais le début de la présentation il y a quelques minutes, on disait avant, on les mettait devant la télé, mais on les met toujours devant la télé, c'est toujours l'écran numéro un. C'est-à-dire que la télé, elle est plus dans la chambre, mais maintenant, la différence, c'est qu'elle les suit partout. Je veux dire, elle est dans leur poche, elle est sur les smartphones, elle est sur les portables. Ensuite, il y a les jeux vidéo, ensuite, voilà, c'est les clips, etc. Et la quasi-totalité des activités d'usage des jeunes générations, alors de tous les enfants, alors là, on parle des 0 jusqu'à 17 ans, ce sont des activités purement récréatives qui ont sur le cerveau des effets positifs qui sont quasi nuls. Alors, on peut être content quand, jusqu'à une certaine durée, ils n'ont pas d'effets négatifs. Cela étant dit, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'ils n'ont pas d'effets positifs.
Bah, donc
ces outils-là. Donc voilà, ils les utilisent. Il y a une étude qui est amusante, si j'ose dire. Je sais pas. C'est une étude qu'on a appelée One Laptop Per Child. Ils ont décidé un ordinateur par enfant. Ils ont décidé de donner des ordinateurs aux enfants soit des enfants défavorisés, comme ils l'ont fait en Catalogne, soit des enfants dans les pays défavorisés, en Éthiopie, au Pérou. Et puis alors là, il y a eu un battage médiatique complètement diabolique. On nous a expliqué, c'est génial, ces enfants, ils apprennent à lire, ils apprennent à écrire, ils apprennent à hacker leur tablette. Peut-être qu'ils arrivaient à faire marcher la caméra, mais peu importe. Puis on a quand même fait quelques études après. Les premières études de court terme, notamment les premières, elles sont sorties au Pérou, ont montré que certes, ils apprenaient à utiliser une tablette, mais comme l'a dit un cadre de Bouillol, c'est fait pour être aussi facile à utiliser qu'une brosse à dents et voilà, et n'importe quel enfant qui n'en a pas utilisé jusqu'à 20 ans sera capable de les utiliser après. Donc le problème est pas là, mais ils sont aperçus qu'il n'y avait pas d'impact sur la réussite scolaire, qu'il y avait même une certaine tendance à diminuer l'effort scolaire. Et puis des études de plus long terme qui viennent de sortir montrent que l'impact, il est négatif. C'est-à-dire quand on a distribué ces outils-là, soi-disant pédagogiques ou à des fins pédagogiques à ces enfants-là, on s'est aperçu que le résultat en maths, en langue, dans tous les domaines scolaires sont tombés, sont descendus. Et simplement, la dernière étude montre que c'est parce que et ces enfants, ils sont normalement câblés. C'est-à-dire quand vous leur mettez ces outils, ils les utilisent pas à des fins didactiques ou pour les fins qu'on voudrait, pour lesquelles ils les utilisent. Ils les utilisent pour s'amuser, à des fins de divertissement. Et à la fin, si j'ose dire, c'est toujours l'usage débilitant qui gagne quand vous mettez ces outils.
Donc en fait, c'est vraiment le problème. C'est plus le programme de l'usage qu'on en fait. Parce que comme vous disiez, vous et moi, on va utiliser nos ordinateurs, on va utiliser notre smartphone, mais c'est dans le cadre de notre travail. C'est un peu moins gênant, Michel Damurger.
Alors, c'est pas la même chose de lire le New York Times en ligne ou le Monde en ligne ou d'aller chercher de l'information sur une donnée et de l'utiliser pour se gaver 6 heures par jour de séries Netflix et de jeux vidéo, ou de réseaux sociaux. Alors, on nous dit, par exemple, mais il y a toute une mythologie, hein, par exemple, sur les réseaux sociaux, mais ils lisent et ils écrivent. Il y a encore une étude qui vient de sortir qui montre que plus ils passent de temps sur ces outils-là et plus ils ont des problèmes de langage, parce que ce qu'on trouve
en matière
d'écriture, c'est compliqué. Donc voilà, donc il y a évidemment, il s'agit pas de balancer tous les écrans, évidemment qu'il y a des effets extrêmement positifs, mais la question c'est pas qu'est-ce qu'ils pourraient en faire dans un monde mythique idéalisé, la question c'est qu'est-ce qu'ils en font vraiment. Et quand on regarde ce qu'ils en font vraiment, bah c'est des usages qui sont pas très bons pour la construction cérébrale, c'est le moins qu'on puisse dire. Hein.
Justement, le cerveau de nos enfants a été transformé par les écrans, certains disent, mais pas comme on pourrait le croire, Michel Damurger, puisque pour la première fois de l'histoire de l'humanité, le QI moyen a baissé.
Alors, c'est une espèce de mythe qui est sympa, qui était parti des jeux vidéo. Quoi que vous fassiez, votre cerveau va se structurer différemment. Le cerveau, il se construit. Si vous prenez deux jumeaux, dont l'un va jouer au foot et l'autre va faire du violon, ou qui vont avoir des vies un peu différentes, ils vont avoir des cerveaux différents. Ça ne veut pas dire que le cerveau, les bases de fonctionnement cérébral, il n'est pas le même. Je veux dire, notre cerveau, c'est toujours un cerveau qu'on a hérité de centaines de milliers d'années d'évolution. Le cerveau de nos enfants, il est vieux. Et il obéit aux mêmes contraintes que notre cerveau. Il a besoin d'un certain nombre de choses, voilà, qui sont contraires à ce que lui fournissent les écrans.
Donc en fait, il n'est pas du tout fait pour l'environnement numérique dans lequel on vit.
Ah, il n'est pas du tout, du tout, du tout, du tout fait pour ça. C'est-à-dire que si vous voulez faire souffrir un cerveau, élevez-le dans un environnement numérique tel que celui qu'on utilise actuellement pour élever nos enfants.
On le voit chez les rats, hein.
Pardon ?
On le voit dans les études qu'on fait sur les animaux, sur les rats ou...
Oui, alors on a beaucoup d'indices sur ce qui se passe chez les enfants et les humains, mais quand on veut vérifier un certain nombre d'hypothèses, effectivement, on va essayer de regarder ce qui se passe chez l'animal, et il y a des études qui sont faites chez les rongeurs, chez les rats, chez les souris, qui sont élevées, qu'on a élevées à peu près dans des conditions de développement comparables à celles dans lesquelles on élève nos enfants, c'est-à-dire qu'on leur passait Bob l'éponge, par exemple, ou pour montrer que c'était bien sensoriel, on leur mettait une heure par jour, on changeait les odeurs auxquelles ils étaient exposés, et puis on s'aperçoit que ces animaux-là, ils ont tout ce que vont vous rapporter les enseignants, c'est-à-dire ils ont des problèmes de distractibilité, ils ont du mal à tenir en place, ils ont des problèmes d'apprentissage. Il y a même un dérèglement du système de récompense qui est très important, le système de récompense.
Le système qui crée les addictions, hein.
Il est très lié aux addictions, le système de récompense. C'est-à-dire que c'est lui qui, quand vous avez fait quelque chose qui vous plaît et qui est positif, il vous envoie un petit shoot de dopamine pour vous dire c'est bien et pour vous inciter à recommencer. Et par exemple, quand vous avez des rats, quand vous leur mettez des électrodes dans le système, ils vont les stimuler jusqu'à se finir par se laisser mourir en oubliant de manger. Et il y a des dérèglements de ce système de récompense chez ces animaux-là quand ils sont exposés à des bombardements sensoriels tels comparables. Encore une fois, c'est pas des trucs extraordinaires. On leur met pas des tambours dans les oreilles toute la journée. On leur met Bob l'éponge. Sur des durées comparables à celles auxquelles sont exposés nos enfants, et on a des problèmes de développement qui sont effectivement sévères et documentés, mais qu'on retrouve chez les enfants.
Bien entendu. 04 95 32 22 22, hein, si vous voulez réagir à notre émission, on parle aujourd'hui du danger des écrans sur nos jeunes enfants. Vous pouvez continuer à m'envoyer vos messages sur nos réseaux sociaux France Bleu RCFM.
And move that in my direction. So thankful for that, it's such a blessing, yeah. Turn every situation into heaven, yeah. Oh, you are my sunrise on the darkest day. Got me feeling some kind of way. Make me wanna savor every moment. Slowly, slowly. You fit me, telling me love how you put it on. Got the only key, know how to turn it on. The way you nibble on my ear, the only words I wanna hear. Baby, take it slow so we can last long.
Tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso.
Oh yeah. Ya me está gustando más de lo normal. Todos mis sentidos van pidiendo más. Esto hay que tomarlo sin ningún apuro.
Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firmo en las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firmo en las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito.
This is how we do it down in Puerto Rico. I just wanna hear you screaming, ay bendito. I can go forever cuando esté contigo.
Pasito a pasito, suave suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito.
Que me enseñes a mi boca tus lugares favoritos.
Pasito a pasito, suave suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito.
Hasta provocar tus gritos.
Despacito.
Despacito sur RCFM.
Vos questions, les réponses de nos experts sur RCFM.
Aujourd'hui, on parle de danger des écrans sur les jeunes enfants dans les experts. 04 95 32 22 22 si vous souhaitez réagir ou témoigner. Également sur nos réseaux sociaux France Bleu RCFM. La révolution numérique n'a pas épargné les familles. En quelques années seulement, les écrans ont envahi les chambres de nos enfants, petits et grands. Quels sont réellement les dangers de cette surexposition aux écrans connectés ou à la télévision? À quel moment faut-il s'alarmer? Comment protéger nos enfants de possibles dérives? On en parle aujourd'hui avec Michel Desmurger, qui est docteur en neurosciences, directeur de recherche à l'INSERM et qui a publié un livre, La fabrique du crétin digital, les dangers des écrans pour nos jeunes enfants. C'est aux éditions Seuil. On parlait juste avant la pause, Michel Desmurger, vous nous disiez que effectivement on tapait dans le même système de récompense dans le cerveau. Est-ce qu'on peut parler d'addiction? Parce qu'on a fait une émission la semaine dernière, on me disait, mais non, il n'y a pas une addiction à l'écran, il y a une addiction à ce qu'on fait à l'intérieur, aux réseaux sociaux, etc. Mais pas vraiment à l'appareil. Et pourtant, vous le disiez il y a quelques minutes, ça tape dans le même système de récompense. Donc ça peut créer des addictions.
Oui, alors je dirais deux choses. Quant à savoir si vraiment il y a des phénomènes d'addiction, les dernières études me semblent quand même assez claires à ce sujet. Donc, et au niveau comportemental, et au niveau, il y a beaucoup d'études de neuroimagerie maintenant qui commencent à sortir et qui montrent qu'effectivement, il semble y avoir une certaine parité, une certaine de fonctionnement, c'est-à-dire que c'est les mêmes aires qui sont engagées. Et ça va devenir de plus en plus difficile et il va, à mon sens, falloir de plus en plus de mauvaise foi pour nier ces phénomènes addictifs. Le fait est que ces phénomènes addictifs, alors, ils sont difficiles entre les pays, entre les études, entre les gens, l'addiction n'est pas définie de la même façon. Donc, on a beaucoup de variation entre les études, entre les taux. Ce qu'on peut dire, c'est que c'est encore, j'insiste sur le mot, c'est encore apparemment très minoritaire. C'est-à-dire que quand on trouve dans les études les pourcentages d'enfants et d'ados qui seraient sujets à ce phénomène sont encore autour de 5%, allez, entre 5 et 10 dans les études les plus alarmantes. Donc que le phénomène existe, pour ce qui me concerne, ça me semble maintenant, compte tenu des données disponibles, assez indiscutable. Le fait est cependant que il faut pas se cacher derrière l'addiction pour oublier que c'est pas parce qu'il n'y a pas une addiction avérée qu'il n'y a pas un problème. C'est-à-dire que le gamin il soit addict ou pas, quand il a 3 ans ou 4 ans, quand il a 5 ans, et qu'il a 5 ans, il va passer quasiment 4 heures, 3 heures par jour sur ces outils-là, et quand il a 8 ans, il va en passer 5. Même si c'est pas qualificatif, stricto sensu, pour la plupart des enfants, de l'addiction, ça veut pas dire qu'il n'y a pas un problème. Et donc, oui, il faut pas que cette addiction, ça devienne un espèce de drapeau pour nous dire il y a problème que quand il y a addiction. C'est pas vrai. Donc, même si on veut bien dire à tous ces gens, ok, laissons tomber l'addiction, même si on veut bien admettre que ça n'existe pas, et encore une fois, les dernières études montrent quand même assez clairement que ça existe et c'est bien ancré, et c'est les mêmes aires cérébrales et les mêmes processus cérébraux et neuronaux qui sont engagés, mais même si on ne veut pas reconnaître ça, il y a quand même un problème vu les durées d'usage.
Marie-Ange nous dit, une question auditrice, mon fils a 19 mois, je voulais savoir si le fait d'avoir la télé allumée chez moi peut avoir des incidences sur notre fils.
Dis entre oui, malheureusement, j'ai envie de dire. Il y a deux incidences, c'est-à-dire que deux grosses incidences qui sont, enfin trois même, qui sont un peu gênantes à mon avis. La première, c'est que si elle est allumée, quelqu'un la regarde. Et on s'aperçoit que quand une télé est allumée dans la maison, ça va effondrer les interactions intrafamiliales. Que ce soit les parents ou l'enfant d'ailleurs qui la regarde, on va moins s'adresser à l'enfant, il va moins avoir d'interaction humaine. Et on parlait tout à l'heure de la nécessité pour le cerveau humain. Et la nécessité du cerveau humain, la première nécessité, il est câblé pour l'humain. Il a besoin d'interactions intrafamiliales riches. Et si vous rentrez, par exemple, sur un bébé avant 2 ans, qui correspond au cas de cette dame, une heure de télé allumée dans une maison, vous l'allumez et vous enlevez 50 minutes quasiment d'interactions intrafamiliales à l'enfant. C'est colossal.
Mais combien de foyers vous rentrez et que les télés sont allumées en permanence? Bon, c'est pas mon cas, mais je m'en aperçois. Hein,
Donc, oui. Il y a une étude qui a montré que les enfants qui sont dans des foyers... où la télé est constamment allumée, quand ils rentrent au CP, 3 à 4 fois plus, il faudra regarder les chiffres, mais c'est dans ces eaux-là, de chances d'avoir des retards de langage et des difficultés d'apprentissage de l'écriture.
Et de concentration également. Voilà. Parce que je lisais une étude qui disait que en fait, quand la télé était allumée, le bébé était constamment dérangé, puisque ce sont des bruits qui sont pas bons pour son cerveau quelque part, qui est en train de se construire.
Oui. tout à fait. C'est le deuxième problème. C'est-à-dire qu'on a parlé du bombardement sensoriel, et du coup, il va être soumis à ce bombardement sensoriel comme les rats. Les rats, ils ne regardent pas Bob l'éponge, ils s'en tapent. Et ben, le bébé, c'est pareil. Donc, il va à ce bombardement. Et en plus, le bébé, il joue. Le bébé, il fait des jeux, et ces jeux, c'est-à-dire qu'il va prendre, sa girafe, là, puis il va commencer à jouer avec. Et ces jeux, ils sont de plus en plus longs. Puis il va prendre la girafe, et après, il va prendre un cube. Et on s'aperçoit qu'un développement, j'ai envie de dire, normal, typique, normal au sens de typique, c'est un bébé qui a des jeux de plus en plus longs, des jeux de plus en plus complexes, avec des ancrages visuels de plus en plus importants sur les choses, qui donnent une idée de l'attention. Et on s'aperçoit qu'un bébé qui se développe moins bien, qui a des troubles du développement, au contraire, il va avoir des jeux très courts, il va changer souvent de jouet, et c'est exactement ce vers quoi le conduit la télé, c'est-à-dire que cette construction du jeu qui va être nécessaire à la construction de tout un tas de capacités, notamment attentionnelles, si vous avez le bébé, il est en train de jouer avec sa girafe, et il entend un bruit, ou il voit une espèce d'éructation visuelle, un truc visuel sur la télé. Il va arrêter, il va regarder. Même si ça dure qu'une seconde, il va revenir à son jeu, il va pas reprendre son jeu, il va pas reprendre la continuité du jeu qui est nécessaire à son développement, il va recommencer un autre jeu. Et on a là effectivement un mécanisme qui est pas de bon sens, j'ai envie de dire, parce qu'il faut vraiment aller le chercher, mais qui a été très bien mis en évidence par les chercheurs. C'est-à-dire qu'on va briser la continuité de son jeu et le développement du jeu. Donc il vaut mieux mettre un enfant tout seul dans un environnement sécurisé, avec des jouets effectivement, sans télé, que de le mettre avec une télé, même si c'est les grands qui la regardent.
Oui, mais le mieux, c'est voilà. Non, mais moi, ça me frappe. C'est bien qu'elle ait posé cette question, puisque dans combien de foyers vous rentrez, les télévisions elles sont allumées en permanence et ils n'ont pas l'impression que les enfants la regardent, mais c'est compté quand même en temps d'écran, hein.
Oui, c'est compté en temps d'écran. Enfin, et puis, alors pas dans toutes les études. Souvent, il y a des études qui comptent ce que l'enfant regarde effectivement, mais en tout cas, c'est établi comme étant un perturbateur du développement. Enfin, c'est un peu. Je ne sais pas si l'analogie est très bonne, mais c'est un peu comme le tabagisme passif, quoi. C'est moins mauvais que le tabagisme actif, mais c'est pas bon non plus. Et ben là, c'est un peu pareil, c'est-à-dire une télé allumée, ça perturbe le développement, et puis c'est un peu ça soumet l'enfant à un bombardement de bruit constant, voilà, qui perturbe sa construction cérébrale. Et puis surtout, ça va diminuer les interactions avec les parents. C'est-à-dire quand c'est les parents qui regardent la télé ou autre, et ben même si c'est nous, alors il s'agit pas d'être culpabilisant, mais à un moment donné, le temps que nous on passe aussi, il compte un peu au niveau de ces interactions comme le temps que passe le bébé. Et surtout qu'on vienne pas nous dire, parce qu'il y a toujours ce baratin, il faut regarder avec l'enfant, etc.
Ah oui, combien de fois elle a entendu ça? Si vous le regardez, la télé avec l'enfant, ça n'a pas le même effet, c'est faux.
Non, mais ça, c'est une arnaque mentale. C'est une plaisanterie et ça mourir de rire. Parce que, d'abord, quand on enregistre, plus de 90% du temps passé à regarder avec l'enfant, il est silencieux. Et l'enfant, il apprend pas de langage avec la télé. On pourra y venir, mais il a besoin d'humains pour apprendre le langage, qu'on appelle le déficit vidéo. Vous pouvez lui montrer 40 fois le même mot, vous pouvez lui montrer 40 fois un bol qui apparaît à la télé, il apprendra pas le mot. Vous lui montrez deux fois avec un adulte qui dit bol, il apprendra.
Faire un tour du côté du journal, mais on va parler justement de cet appauvrissement du langage, mais ça sera tout de suite après la pause.
Pourquoi on ne part pas en vacances cette année?
Tu le sais, on ne peut pas, on doit d'abord faire des travaux dans la maison.
Mais enfin, on attend quoi? J'ai lu que pour nos travaux, il y a les solutions Agir Plus, des travaux d'économie d'énergie bonifiés.
Super, ne perdons plus de temps. Consultez les conditions d'éligibilité sur corse.edf.fr. Programme en faveur de la maîtrise de la demande en énergie piloté par le comité MDE de Corse et financé par l'État.
L'énergie est notre avenir, économisons-la.
L'énergie, nous tabane, tenez-moi-la compte.
Les autres ne sont jamais happy. Mais vous n'êtes pas les autres. Et Cuisine Plus non plus. En octobre, Electrio de Cuisine Plus devient Happy Electrio. Jusqu'à 6 électros de grande marque pour 1 euro de plus. Cuisine Plus, sortez des standards.
Dans votre magasin Cuisine Plus, au rond-point de Fouriagne, à côté de Xoun.
À partir de 4 500 € d'achat de meubles selon barème progressif. Conditions en magasin et sur cuisine-plus.fr. Happy
c'est
signifie
parti
heureux.
Pour le script Direct Assurance. Alors, la publicité Direct Assurance montre un conseiller qui prend un appel pendant qu'il se fait attaquer par un monstre. Non, il se fait emporter par une tornade. Pas terrible. Bon, eh bien, la publicité Direct Assurance ne montre rien du tout, puisque tout ce que nous avons à dire, c'est que nos conseillers font toujours tout leur possible pour vous aider, et c'est pour ça que Direct Assurance est élu service client de l'année 2020. Rendez-vous sur directassurance.fr, le slogan « On gagne toujours à être direct » et le jingle « Ta-ta-ta-da-da ». Catégorie assurance de biens, études BVA Group, visée au CI, mai à juillet 2019, plus d'infos sur escda.fr.
La météo avec Hertz Utilitaire. Location de véhicules utilitaires partout en Corse pour les particuliers et les professionnels.
Le soleil est bien présent dès le matin, toutefois sur la plaine orientale, le ciel est couvert et quelques pluies surviennent. Sirocco modéré sur l'est du département, rafale atteignant 55 km/h en début de soirée. Température maximale entre 22 et 25 degrés. CFM, il est 10h. Le point sur l'actualité, Caroline Philippi, bonjour.
Bonjour, la Cour suprême espagnole a condamné 9 des 12 Catalans jugés pour leur rôle dans la tentative de sécession de la Catalogne en 2017 à des peines allant de 9 à 13 ans de prison pour sédition et détournement de fonds publics. Ces peines sont nettement inférieures à celles réclamées par le parquet qui avait requis jusqu'à 25 ans de prison dans le cas de l'ancien vice-président régional Oriol Junqueras. Trois autres ont été condamnés à des amendes. Dans l'extrême sud, les opérations de déséchouement du Rodanus à Bonifacio vont prendre un peu plus de temps que prévu. Le navire doit être allégé avant d'être dégagé. C'est ce qu'indique ce matin la préfecture de Méditerranée. Elle se base sur les conclusions des experts. Il va donc falloir décharger une partie de la cargaison, c'est-à-dire des bobines d'acier de plusieurs tonnes chacune. Armateurs et assureurs du navire vont devoir proposer des moyens spécifiques qui devront être dépêchés sur place. Mais les délais ne sont pas encore définis. Pour l'heure, la priorité, disent les autorités, c'est de sécuriser le site afin de préserver l'environnement marin. Interviews, articles et photos, reportages complets à retrouver sur notre site internet. Une vente aux enchères publiques peu commune ce matin, celle de la vente de biens appartenant au SCB. Il s'agit là des suites de la liquidation judiciaire de 2017. Plusieurs lots étaient mis en vente par le liquidateur en charge du dossier, Maître Roussel. Tous ces lots n'ont pas trouvé d'acquéreur, mis à part ceux concernant le matériel médical et le matériel de musculation du centre d'entraînement de l'IGESA. De lots achetés par l'association des sociaux pour un coût de 17 000 euros et qui resteront donc au bénéfice du club après accord avec les sociaux. Gilles Siméon y sera à la mi-journée l'invité de notre émission en politique sur RCFM Vintiminoud. La violence, les dossiers chauds de la rentrée comme les déchets ou encore le foncier, les rapports avec l'État, les relations au sein même de la majorité territoriale et les municipales. La parole du président de l'exécutif est attendue. Vintiminoud avec Gilles Siméon, il se donc aujourd'hui entre 12h10 et 12h30. Sur RCFM.
Merci Caroline Philippi, on vous retrouve à 11h pour un prochain point sur l'actualité.
Waouh, Michel, quelle classe! T'as un rendez-vous galant? Ah, mieux que ça, je reçois mon opticien.
Optique 2000 innove avec son nouveau service Optique 2000 à domicile. Désormais, si vous avez des difficultés à vous déplacer, choisissez vos lunettes chez vous avec un opticien Optique 2000. Pour découvrir le service Optique 2000 à domicile, appelez le 0809 54 2000. Et comme toujours, votre opticien s'occupera de tous les papiers. Optique 2000! Une nouvelle vision de la vie.
Conditions et liste des magasins au 0809 54 2000 ou sur optique2000.com. Service gratuit plus prix de l'appel. Dispositif médical, demandez conseil à votre opticien.
On retrouve Soyons Proactifs avec Cerise de Groupama.
Ça y est Bertrand, vous êtes votre propre patron ?
Eh oui Cerise, c'est fait. Pas de salarié, pas de local, c'est sans risque.
Et si vous avez un litige avec un client ?
Eh ben je...
Des 10 euros par mois, avec l'assurance Groupama pour les micro-entrepreneurs, vous êtes couvert si vous êtes mis en cause et bénéficiez de l'aide de nos juristes.
Ah mais c'est bien ça !
Vous permettre de travailler en indépendant sans jamais vous sentir seul, c'est ça être assureur mutualiste.
Groupama, la vraie vie s'assure ici.
Info sur groupamapro.fr pour les conditions et limites des garanties se reporter au contrat.
L'artisanat est une voie d'avenir. Vous voulez vous former à l'un de nos 250 métiers, créer votre entreprise, développer votre activité? Les chambres de métiers de l'artisanat présentes dans tous les territoires vous apporteront toujours la bonne réponse. Rendez-vous dans la chambre de métiers de l'artisanat la plus proche de chez vous ou sur artisanat.fr. Les chambres de métiers de l'artisanat, la bonne réponse.
France Bleu, RCFM.
France Bleu. RCFM, Christine Aloudi, les experts.
Bonjour et bienvenue à vous. Si vous nous rejoignez dans les experts, aujourd'hui on parle des dangers des écrans sur nos jeunes enfants. Tablettes numériques, télévision, ordinateur. Les écrans font partie du quotidien de nos enfants. Selon Médiamétrie, ces derniers passent en moyenne 2h15 par jour devant un écran. Quel impact les écrans ont-ils sur la santé de nos enfants? On en parle aujourd'hui avec un spécialiste, Michel Desmurger, docteur en neurosciences, directeur de recherche à l'INSERM, qui a publié La fabrique du crétin digital, les dangers des écrans pour nos enfants aux éditions Seuil. Michel Desmurger, juste avant la pause, on parlait justement de quelque chose qui m'a frappé dans votre livre. C'est l'appauvrissement du langage dû aux écrans. On a réécrit le Club des Cinq pour que les enfants aujourd'hui puissent comprendre les textes d'hier. C'est quand même fabuleux.
Oui, alors pour l'effet des écrans sur le langage, je voudrais dire que même les programmes qui sont soi-disant éducatifs, qui sont censés développer le langage, non seulement n'ont pas d'effet positif, mais un effet négatif. C'est-à-dire qu'il y a plein d'études, je sais pas, ça vaut peut-être le coup d'en citer une ou deux pour que les gens comprennent vraiment l'ampleur du problème. C'est que, par exemple, une heure de programme éducatif chez un gamin qui a à peu près 18 mois, et puis vous allez, de programme dit éducatif, hein, et vous allez tomber sur lexique de 10%, ce qui est énorme à cet âge-là. Si vous filez, on nous dit, ouais, les tablettes, c'est bon, c'est actif. Si vous filez, c'est la première étude qui sort sur les tablettes, une demi-heure de tablette par jour pour un enfant de 18 mois, et vous multipliez par 2,5 les risques qu'il ait des troubles, des retards de langage, c'est-à-dire concrètement qu'il finisse chez l'orthophoniste. 2 heures de programme jeunesse entre 2 et 5 ans, et vous quadruplez quasiment les risques qu'il finisse chez l'orthophoniste, etc. Et à l'inverse, un enfant à qui vous parlez pas assez, un enfant à qui reçoit moins de 2 heures par jour d'entrée verbale, c'est un enfant chez qui vous allez multiplier quasiment par 7 les risques qu'il ait des retards de langage. Donc on a vraiment besoin d'humains pour ça. Il y a une étude qui vient de sortir, très longue haleine, qui montre qu'ils ont suivi les mêmes enfants pendant plus de 10 ans. Et en fait, on s'aperçoit que le nombre de mots, le nombre d'adresses verbales qu'ils auraient faites, le nombre d'interactions, le nombre de fois où on leur parle, quand ils ont entre 18 et 24 mois, qui semble être une période assez sensible, va prédire non seulement leur développement langagier, mais aussi le développement de leur QI quand ils vont être adolescents, de leur intelligence. C'est-à-dire que, je sais pas comment l'expliquer, mais si vous prenez une population adolescente, ils n'ont pas tous le même QI, ça varie. Un quart de ces variations, un quart des différences, des variations entre le QI d'une large population, est expliqué par le nombre de mots que les enfants ont entendus à cet âge-là. Donc voilà, donc il y a plein de mécanismes, on connaît les mécanismes, vraiment les interactions précoces pour le développement du langage sont essentielles. Et on arrive à un moment où on dit, ouais, c'est pas vrai, on est arrivé à un moment où on est obligé, vous l'avez dit, de réécrire des trucs que les enfants lisaient.
Le Club des Cinq, ça m'a fait rire quand même, parce qu'on l'a tous lu, on réécrit, puis alors on change, on enlève les temps, parce que du coup on écrit tout au présent, bien entendu.
Tout est au présent, on a enlevé les passés simples. Alors là j'ai un exemple, parce que je l'avais noté, c'est par exemple une phrase qui avant était, ne vous désolez pas d'avance, nous trouverons bien quelque autre endroit où vous envoyez et où vous vous amuserez autant, c'est devenu dans la nouvelle version, ne faites pas cette tête.
Voilà. Non, mais c'est quand même impressionnant.
Et donc, mais c'est des mots, les mots qu'on enlève, c'est des mots qui sont pas des mots. En fait, il y a beaucoup de mots qui sont courants.
Il y a 40%, vous le disiez, du vocabulaire qui a sauté quand même, hein.
40% du vocabulaire a été enlevé. Ce qui est un peu effrayant là, c'est que, mais c'est un exemple, c'est un peu, regardez les dictées et les bouquins de français des gamins de maintenant et des gamins
d'avant. Ah non, ils font plus de dictées, c'est fini.
Sur un programme de BEPC, là, c'est 40% des gamins de troisième qui connaissent pas le mot infernal. Et c'est pas des mots compliqués, c'est-à-dire dans le Club des Cinq, là, ce que j'ai regardé, on enlève des mots comme pittoresque, comme bâtisse, comme champêtre, comme afflué, comme essentiel. C'est-à-dire que c'est pas des mots qui sont des mots complètement abscons dont on n'a pas besoin.
Nous nous arrêtâmes dans un cadre champêtre pour pique-niquer se transforme à on s'arrête pour pique-niquer, quoi.
Oui, c'est à peu près ça. Voilà, on s'arrête en haut de la colline. Oui, il y a cette phrase aussi. Non, c'est devenu un appauvrissement. Il y a un appauvrissement qui fait un peu peur au niveau du langage. Et vraiment, le langage, encore une fois, on a parlé de l'attention. C'est-à-dire qu'il y a vraiment deux pieds à l'intelligence humaine. Alors, il y en a plusieurs, il y a la mémorisation, etc., et plein de fonctions, mais il y a deux pieds centraux, essentiels, c'est le langage. La différence entre un macaque et nous, c'est le langage. On peut tortiller comme on veut, mais le langage, c'est ce qui nous fait humain. Et vous pouvez avoir l'intelligence d'Einstein. Si vous avez l'attention d'une palourde, ça va pas fonctionner. Et donc le problème, c'est que on a besoin de ces deux pieds-là, et ces écrans vont scier ces deux pieds-là. Le langage, c'est vraiment au cœur de ce qui fait notre humanité. Comment dire, l'une des études les plus réfrigérantes, je sais pas si je peux la mentionner, mais c'est une étude de l'OCDE qui est sortie sur les adolescents. Et qui explique, oui, mais vous savez, alors maintenant c'est le grand truc. Oui, mais vous savez, les enfants, ils savent différemment. Alors, vous demandez aux gens, mais comment ils savent différemment? Qu'est-ce qui peut être une intelligence humaine qui se passerait du langage et de l'attention, de la mémorisation et des savoirs? Et on nous explique, mais en dehors du carcan scolaire, comme si c'était un enfer d'aller à l'école, c'est vraiment un truc de dingue. Et donc, en dehors du carcan scolaire, quand ils sont pas stressés, parce qu'on a l'impression que les enseignants, je veux dire, c'est tous les vieux de la Troisième République, ils ont quasiment la cravache à l'école, c'est un truc de dingue ce rapport. Et donc, en dehors de ce carcan scolaire, les enfants, ils sont très très malins. Ils sont très intelligents et les mots, ils sont capables d'aller du concret vers l'abstrait, ils sont capables de résoudre des problèmes. Et là, vous vous dites qu'ils sont effectivement pas mal, ces gamins. Mais quand vous allez voir l'étude, il y a quelques psychopathes comme moi qui vont voir les études.
Bah, je l'ai vu aussi.
Les tâches testées, mais ça fait froid dans le dos parce que ça ressemble au gamma du meilleur des mondes. Vous savez, ces espèces d'exécutants un peu idiots à qui on a enlevé tous les outils de la pensée, les mots, qui sont encore capables d'appuyer sur des boutons, de faire fonctionner des machines, voire d'écrire des tout petits programmes de code très faciles. Et les tâches, c'est, ils sont capables de régler un lecteur MP3, ils sont capables d'acheter un billet de train sur une borne internet au meilleur prix, et ils sont capables de régler un plan de table pour un anniversaire. faire. Mais c'est effrayant quand on arrive à s'enthousiasmer d'un truc comme ça. Alors je veux bien qu'on nous dise les emplois d'avenir, parce que je l'ai entendu, j'ai du mal à croire que ce soit vraiment voulu et concerté. Je pense que les intérêts économiques sont principes là-dedans.
Mais on voit bien, Michel Desmurger, qu'on leur fait dire un petit peu ce qu'on veut aux études. Mais d'ailleurs, concernant les effets du numérique, on trouve tout et n'importe quoi. Moi, quand j'ai préparé cette émission, évidemment, j'ai été chercher toutes ces études, etc. Et on trouve de tout. Alors après, on peut se dire, mais quels chercheurs croient? Quels experts croient? Comment on peut s'y retrouver dans cette avalanche d'informations contradictoires? Dans votre livre, d'ailleurs, vous vous interrogez un petit peu également sur, vous en parliez à l'instant, sur les conflits d'intérêts et du coup, sur la crédibilité de certains experts du numérique. Vous prenez l'exemple, parmi d'autres, d'un psychologue clinicien français, expert en numérique et fortement lié à l'industrie des écrans. Comment, Michel Desmurger, on distingue les études scientifiques très solides, comme vous les citez dans votre livre, à celles beaucoup plus farfelues, comme on vient d'entendre?
Alors j'ai envie de dire que c'est difficile pour les gens qui lisent, c'est difficile pour vos auditeurs, c'est difficile pour tout un chacun.
Complètement.
Par contre, ça devrait être, à mon sens, le travail des journalistes. Bon, c'est pour ça qu'on les appelle médias, ils sont censés faire la médiation. Reconnaître les études qui sont des études foireuses, des bonnes études, c'est quand même assez facile. C'est-à-dire qu'il y a des journaux scientifiques. Et ces journaux ont des critères, c'est-à-dire qu'on publie pas facilement dans les bons journaux scientifiques. C'est envoyé à plein d'experts, et puis c'est contrôlé. Et puis par exemple, quand vous envoyez à Science, qui est un bon journal, vous avez facilement 3-4 experts du domaine, des statistiques, etc., qui désosent votre papier. Et 90% des papiers qui sont envoyés dans ces journaux partent à la poubelle parce qu'il y a une faille quelque part. Alors vous avez des journaux qui sont excellents, qui sont un peu moins attentifs à ça, je veux dire, qui vous mettent deux experts et puis etc. Donc vous avez des bons et des très bons journaux qui sont connus, ils ont ce qu'on appelle un impact facteur. Donc déjà, voir d'où ça sort,
voilà.
Voir qui écrit, c'est-à-dire que il y a des bases de données. Vous allez simplement sur Internet, un truc qui s'appelle PubMed, et vous tapez le nom de votre expert et vous verrez s'il a jamais publié dans sa vie un papier sur le sujet, voire un papier tout court. Donc il y a des choses qui seraient très faciles à faire pour les journalistes. Je vais prendre
Journalistes, oui, parce que on en a parlé hors antenne. Hein. Le job est fait, mais je veux dire pour le tout à chacun, pour les personnes qui nous écoutent,
pour les gens qui n'ont pas. C'est difficile. C'est-à-dire aller
c'est
taper. Allez, si vous avez une étude. On peut prendre l'étude sur les jeux. Il y a une étude sur les jeux vidéo comme exemple qui montre que les jeux vidéo c'est bon pour les notes et que plus les enfants jouent aux jeux vidéo et plus ils ont de bonnes notes à l'école. Donc on peut déjà faire une chose, c'est taper le nom de l'auteur. Et vous verrez que l'auteur il est économiste, qu'il n'a jamais tapé dans le champ. Vous pouvez ensuite taper le nom de la revue et vous verrez que c'est une revue de huitième catégorie avec un impact facteur quasi nul. Un impact facteur quasi nul, ça veut dire qu'aucun chercheur ne cite les travaux issus de cette revue. En fait, l'impact facteur, c'est est-ce que les chercheurs du champ vont citer les travaux? Est-ce qu'ils sont suffisamment bons? Donc voilà, vous pouvez ensuite regarder et vous dire que vous avez une étude qui va contredire l'ensemble des autres études et tout ce qu'on sait sur le champ. On va quand même pouvoir aussi commencer à se poser des questions. Et puis, vous pouvez aussi aller voir l'étude directement. Et là, il faut quoi? Il faut 3 secondes pour s'apercevoir que cette étude ne tient pas debout. Je veux dire, cette étude, elle vous montre que les jeux vidéo, c'est bon pour les notes. Qu'il vaut mieux jouer aux jeux vidéo
que faire ses devoirs.
Elle vous montre aussi, c'est fascinant, mais elle vous montre aussi que vous n'avez plus besoin d'aller à l'école. C'est-à-dire que vous ratez l'école 3 fois par semaine. Si vous faites vos devoirs sur Internet une fois par mois,
c'est bon.
Ça n'aura pas d'impact. Vous n'allez plus à l'école. Elle vous montre aussi que les enfants des milieux les plus outrageusement défavorisés à l'aide sociale, les enfants pour qui la vie est la plus difficile, eh ben ces enfants-là, ils s'en sortent mieux à l'école que les autres. Donc une fois que vous avez ça, vous avez compris que cette étude, c'est tout sauf une étude. Et ce qui est effrayant, c'est que cette étude, elle a fait le tour de la planète. Tous les grands médias français l'ont repris. Elle a été reprise dans tous les grands médias internationaux, le même jour, à la même heure. Je ne sais pas comment ça c'est possible, ce genre de choses. Cette étude, elle a été reprise sans recul. Je veux dire, il y a eu Le Figaro, il y a eu Le Monde, il y a eu Libé, on en a parlé à la télé. Et sans aucun recul. Il y a encore des parents qui disent « les jeux vidéo, c'est bon pour les notes ». Mais quand ça, je veux dire, c'est à pleurer, quoi. En gros, la règle, elle est simple. Si vous avez une étude dont derrière il y a des intérêts économiques un peu importants et que cette étude elle contredit tout ce qu'on sait sur le champ et tout ce qui a été accumulé depuis des années, genre le chocolat fait maigrir, comme ça il y en a une comme ça qui était une arnaque de l'auteur, qui est un peu rigolote, faut se poser des questions, oui.
Mais justement, parmi vous les citez dans votre livre, hein, parmi ces grandes stratégies pour décrédibiliser les solides recherches sur les impacts des écrans, il y a, je vous cite, semer le ver du doute dans la pomme du savoir. C'est ce qui a été fait, vous le disiez, pour le tabac, pour les pesticides aussi.
Ouais, alors vous avez, alors il y a quelques formules valides, mais c'est absolument génial parce que le but de ce genre de truc, c'est de jamais avoir regardé les faits. C'est-à-dire, vous citez, vous, une étude en disant, voilà, il y a des études qui montrent ça, et vous avez la réponse valide un peu de tous ces experts, c'est, alors il faut pas être alarmiste, il faut pas culpabiliser les parents. Oui, mais la littérature est contradictoire. On vous dit jamais en quoi elle est contradictoire, mais oui, elle est contradictoire.
Oui, c'est un peu la stratégie du doute, hein, qui est si chère à nos lobbies industriels.
Oui, la dernière cacahuète à la mode, si je peux me permettre, c'est ennuyant parce que une membre du gouvernement au Sénat, ils étaient en train de discuter un projet de loi qui a été proposé par une sénatrice de mettre un petit mot comme en bas des paquets de tabac, de mettre un petit mot sur les outils numériques à destination des enfants en disant que c'était pas très bon. Et là, la membre du gouvernement, dont j'ai oublié le nom, secrétaire d'État ou secrétaire d'État, je ne saurais dire, est arrivée en disant oui, mais on manque d'études. Et c'est un truc de dingue. Il y en a des milliers des études. Donc il y a un certain nombre de trucs valides. Et l'avantage, c'est que vous savez jamais rien regarder. Et quand vous avez dit aux gens paré de vos habits d'experts, il n'y a pas d'études, on n'est pas d'accord, les chances contredisent. Et ça a été pareil pour le réchauffement climatique. Sauf que comme on le disait au début, maintenant ça commence à se voir, les discours ils commencent à être un peu plus compliqués à tenir.
Oui, mais il y a aussi.
Oui, je suis désolé, ça m'énerve.
Bah non, mais vous avez. Non, mais c'est énervant. Non, mais c'est énervant parce que.
Ce qu'on est en train de faire à nos gosses, ça me rend dingue parce qu'on n'a pas le droit de faire ça à une génération. Je veux dire, on est vraiment en train de faire quelque chose à ces enfants, de mener sur eux une espèce de d'expérience à des fins. Je veux dire, on sait qu'il y a des choses qui sont pas bonnes et juste pour faire du fric sur leur dos. Et vraiment, c'est
ouais, oh, elle est longue, la compagnie. j'ai envie de dire, je pensais quand vous me parliez du secrétaire d'État et tout, j'ai dit, va m'annoncer une bonne nouvelle, comme à Taïwan. On va considérer que les écrans, c'est de la maltraitance, puisque quand même, à Taïwan, un enfant de moins de 2 ans qui est dans un écran sur une poussette, c'est 1500 euros d'amende.
Oui, parce qu'ils considèrent... Alors, je ne sais pas si on est arrivé là, mais j'en sais rien.
Tant qu'à faire, se faire du fric, au moins que ce soit bénéfique pour nos enfants.
Ouais. Mais à Taïwan, effectivement, ils ont considéré que c'était de la maltraitance au même titre que de cogner les enfants, par exemple.
Oui, c'est ça.
Alors... Voilà, mais c'est alors vu au volume auquel c'est utilisé, on pourrait en parler, c'est de la maltraitance. C'est-à-dire que pour un enfant avant 5-6 ans, il n'y a aucun bénéfice à les utiliser, aucun. S'ils ne les utilisent pas, ils ne deviendront pas moins à l'aise ensuite quand ils seront grands avec ce que l'informatique, qui est le numérique, peut avoir pertinent à proposer. Par contre, il y a des risques qui sont avérés, qui sont majeurs, qui sont massifs depuis maintenant 50 ans. Donc, en plus on va les exposer tôt, et plus derrière, ils vont être des utilisateurs importants. Donc avant 5-6 ans, il y a vraiment, voire 7 si on veut préserver l'année de cours préparatoire, qui est quand même assez fondamentale pour le reste de la vie, il n'y a aucun intérêt à les exposer et aucun détriment à ne pas les exposer. Ensuite, ce que montrent les études, notamment à partir de la réussite scolaire, parce que ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a des effets sur la réussite scolaire qui sont absolument majeur, mais ces effets causaux, c'est-à-dire mettre un écran dans une chambre, et puis, alors, un gamin qui a un écran, les mamans, c'est comme ça, c'est sympa les mamans, nous on aime bien les chercheurs, on aime bien les mamans, parce que quand le petit a des mauvaises notes, hop, on les enlève, donc le petit, il a des mauvaises notes, on lui enlève les écrans, ça reprend 20%, et puis on remet les écrans parce qu'il a de bonnes notes, ça retombe, et ainsi de suite, comme ça. Donc c'est vraiment des choses qui sont causales, qui sont démontrées,
justement,
sur des atteintes faites au temps passé au devoir.
Justement, vous parlez de ça, je rebondis là-dessus, hein. Il y a quand même le rapport PISA qui a comparé les études des systèmes scolaires et qui tend à prouver que plus la numérisation est importante et plus les résultats des élèves sont tombés. Je pense à l'Espagne, à la Pologne, hein, qui avaient largement misé sur le numérique et qui en sont revenus, puisqu'ils ont vu que le niveau de leurs élèves avait baissé de 2009 à 2012.
Le pire, c'est la Suède. La Suède, qui a tout le temps caracolé en tête, et maintenant ils ont quand même réussi l'exploit d'être derrière nous. Il faut être fort pour être derrière la France au classement PISA. Peu importe, je suis mauvaise langue. Oui, alors c'est un peu différent parce que le classement PISA concerne. Alors, ils ont une partie qui concerne l'usage numérique à la maison, et cette partie montre que plus il y a d'ordinateurs à la maison et plus les enfants ont accès à des ordinateurs. Mais ça, depuis les premières études PISA au début des années 2000, plus les enfants ont accès à ça et plus leurs résultats scolaires chutent. Sont affectés. Et puis il y a le numérique à l'école.
Mais on va pallier à ça, Michel Desmurges, on va enlever les notes. Voilà, comme ça.
Oui, non, c'était une blague. Mais le numérique à l'école, c'est rigolo parce que. Enfin, c'est rigolo. C'est-à-dire qu'il y a vraiment. Il y a une logique économique. On a du mal à trouver des enseignants, ça coûte cher, ça se met en grève, c'est fatigué, j'en sais rien. Et puis un enseignant qui passe son concours et qui se retrouve pendant 20 ans à 1500 euros ou 1400 euros à Créteil, loin de sa famille et tout, c'est compliqué. Donc on a beaucoup de mal à trouver des enseignants. Par contre, ce que montre le rapport PISA, c'est que la seule différence entre tous les systèmes éducatifs de la planète, les plus performants et les autres, il n'y en a pas 50, hein. Il y en a une, et c'est ce que montrent toutes les études académiques, c'est la qualité des enseignants dans leur recrutement et dans leur formation. Et le programme PISA montre que si vous avez rien ou un ordinateur, il vaut mieux un ordinateur que rien. Maintenant, si vous avez un enseignant compétent plutôt qu'un ordinateur, l'enseignant compétent fera toujours infiniment mieux que l'ordinateur. Et là où c'est un peu ennuyeux, c'est si vous avez un enseignant compétent plus des outils numériques, ça ne fait pas grand-chose de mieux. Donc, par contre, le but, c'est que, bah, effectivement, ça permet, là où ça devient gênant, c'est que, on voit dans plein de pays, ça permet de substituer une partie de la charge d'enseignement, donc ça permet de gagner une partie des heures d'enseignement, et de les transférer vers le numérique. Et là, effectivement, quand on fait ça, alors, il faut peut-être apprendre des choses du numérique, à utiliser, à coder, à faire un certain nombre, à utiliser Word, etc., mais c'est pas ça qu'on parle. Là, on parle du fait d'enseigner les mathématiques, les langues, le français, avec des outils numériques. Et là, toutes les études montrent que quand on prend des heures d'enseignement humain pour les transférer vers le numérique, les résultats scolaires baissent. Et là où c'est quand même un peu ennuyeux, c'est que les premières victimes de cette baisse-là, ce sont les enfants les plus défavorisés. C'est-à-dire qu'on nous dit que ça va améliorer l'égalité sociale. C'est pas vrai, c'est exactement, strictement et brutalement l'inverse.
Et puis bon, ce qui est effrayant, c'est qu'on leur donne des tablettes, ils savent plus écrire, ils savent plus lire, ils arrivent en sixième et ce sont des... Enfin voilà, ils savent ni lire ni écrire. C'est quand même ça qui est flippant.
Oui, alors si vous voulez, alors il y a des études qui ont été faites à Marseille, si vous voulez rendre aussi difficile qu'il est possible l'apprentissage de l'écriture et de la lecture, parce que les deux sont liés, pour un enfant, faites-le pas apprendre à la main, faites-le apprendre avec un clavier ou une tablette. Mais c'est très facile à comprendre, il y a un exemple parmi l'autre, c'est-à-dire que pour le système visuel, c'est-à-dire que si je vois mon bol de dessus, de dessous, c'est toujours un bol. C'est-à-dire qu'à la sortie de mes traitements visuels que je vais faire, c'est l'objet qui est codé. Et on sait que dans le système visuel, par exemple, le B et le D, pour mon cerveau, pour la partie visuelle de mon cerveau, c'est la même chose. Pour lui, c'est le même objet.
Ben oui.
Donc ça veut dire que la seule différence pour le gamin de faire d'arriver à différencier les deux, c'est sa main. Et si vous lui enlevez sa main, il peut plus. Et les études ont montré que si vous leur faites apprendre au clavier, ils ont du mal. Ils ont tout ce qui en surface va ressembler à de la dyslexie. Ils ont du mal à apprendre les lettres. Ils ont du mal à les mémoriser. Ils vont les confondre. Ils vont confondre le BLD, le PLQ. Et ça va être beaucoup plus compliqué, beaucoup plus long pour eux d'apprendre avec un clavier que d'apprendre avec un crayon. Mais c'est ce que montre le cas de la Suède. La Suède, c'est un effondrement, mais sans précédent. On n'avait jamais vu ça dans l'histoire PISA.
Est-ce que justement, Michel Desmurger, vous êtes docteur en neurosciences, je le rappelle, est-ce que justement l'augmentation de tous ces troubles 10, est-ce que les écrans n'ont pas une incidence là-dessus?
Alors, il y a deux choses. Il y a d'abord une augmentation de ce qu'on rentre dans de la définition des 10, c'est-à-dire des choses qui avant n'étaient pas considérées 10, le deviennent maintenant. Maintenant, pour répondre directement à votre question, la réponse c'est oui, mais je suis pas sûr que... En fait, c'est des enfants qui, du fait des écrans, n'ont pas développé un certain nombre d'habiletés, qui vont à tort les faire que ces enfants sont étiquetés 10. Par exemple, prenez les dyspraxiques, c'est des enfants qui ont des problèmes de motricité, notamment de motricité manuelle. Je veux dire, il y a une étude qui montre que si vous me donnez une tablette à un bébé, à un enfant, entre 0 et 24-30 mois, c'est le système immature. C'est-à-dire, il y a notamment une couche de graisse qui se met, par exemple, qu'on appelle la myéline, qui se met le long des nerfs. Et effectivement, cette chose, c'est dépendant de l'expérience. Il faut faire marcher le système, en gros, pour qu'il se construise, ce système-là. Et avec une tablette, tout ce que fait le gamin, c'est d'avoir ses longues vis, ses sensoriques moteurs. Le gamin, il a ses doigts collés et il fait marcher ses doigts sur la tablette. Donc il n'y a pas ce développement ici de la motricité fine, et c'est ce que montre cette étude, on a des retards de développement de la motricité. Et ces enfants, après, il ne faut pas s'étonner effectivement quand ces fenêtres de maturation de la motricité, de la sensorimotricité sont passées, qu'on les classe à tort, 10.
Donc voilà, c'est un petit peu pour ça aussi. On a une question auditeur, Michel Desmurger, j'ai des enfants d'âge différent, comment fixer des règles différentes? Mais chacun dans une pièce.
C'est ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire que les règles, en fait, elles sont assez simples. Pour les enfants avant 6-7 ans, pour ce qui me concerne, l'idéal c'est zéro, c'est-à-dire qu'on peut pas aller de temps en temps au ciné avec eux. Les règles pour les enfants, on parlait de la réussite scolaire, pour les enfants plus âgés, jusqu'à une demi-heure, il n'y a pas d'effet négatif. Alors à condition que le sommeil soit préservé, il faudrait préserver
donc, le sommeil.
Donc pas
le soir, on va répéter un petit peu.
Bah ouais, même un gamin qui regarde jusqu'à 23h Joséphine, le soir, c'est pas possible.
Non mais même nous, hein.
Qui peut pas marcher le lendemain. Donc si le sommeil est préservé, si ce n'est pas des programmes inadaptés, hyper violents ou autres pour des enfants de jeune âge, jusqu'à une demi-heure, il n'y a pas d'effet négatif. Si on fait une lecture positive de la littérature, jusqu'à une heure, normalement, ça peut passer. Encore une
fois, à partir de 6-7 ans,
vous pouvez y aller. Une demi-heure, il n'y a pas de problème, et jusqu'à une heure, on peut considérer, si on a une lecture optimiste, qu'il n'y a pas de problème non plus. Cela étant dit, je rappelle que si cette heure ou si cette demi-heure, vous l'utilisez à autre chose,
bah c'est mieux.
Non seulement il ne va pas y avoir d'effets négatifs, mais il va y avoir des effets positifs. C'est-à-dire que je sais pas, moi, un gamin, si vous prenez un quart d'heure tous les soirs pour lire, ou si vous le mettez un quart d'heure devant la télé, un quart d'heure tous les soirs pour lire, vous lui aurez lu à peu près 700 à 800 000 mots au bout d'une année. Vous savez, ces mots-là, bizarres, dont on parlait tout à l'heure.
Champêtre.
Eh ben, ces mots, il va les percuter. Donc, même un quart d'heure par jour cumulé, c'est colossal.
Donc, après, toujours favoriser l'interaction humaine, de toute façon. Hein.
Ah, toujours. Il vaut mieux mettre un enfant tout seul dans un milieu sécurisé, avec des jouets, des choses à faire, même le laisser s'ennuyer, que de le mettre devant un écran. Je dis, il y a...
C'est important. Alors, ce que vous dites.
Voilà. Et donc, les conseils, pas pendant les interactions intrafamiliales, c'est-à-dire pas pendant le repas. C'est un truc de dingue d'avoir une télé dans sa cuisine ou d'autoriser la tablette pendant qu'on mange. Pas le matin avant d'aller à l'école, parce qu'il y a des troubles, effectivement, après, de l'apprentissage, de l'attention, mais à court terme. Pas le soir avant d'aller dormir, parce que ça affecte le sommeil, parce que c'est excitant, mais aussi parce qu'il y a cette lumière qui va perturber son... La mélatonine, c'est l'hormone du sommeil, en gros, quand le cerveau voit qu'il fait nuit. Dehors, il se met à sécréter cette hormone pour nous endormir. Et donc, quand il a cette tablette devant lui, bah, il ne sait plus, il devient dingue, le malheureux, il ne sait plus s'il fait nuit ou s'il fait jour, il ne sécrète pas. Donc, même si vous envoyez votre enfant à la même heure, il va mettre beaucoup plus de temps à s'endormir.
Marcel,
et pardon. Si vous avez des troubles du sommeil, vous aurez des troubles de la mémorisation. Par exemple, un enfant, on leur dit, va faire tes devoirs, tu joueras au jeu vidéo après. Donc, l'enfant, il fait ses devoirs.
Avec la carotte.
Il apprend une liste de mots, par exemple. Ensuite, une heure après, il joue au jeu vidéo. Pendant une heure, c'est pas long. Un jeu vidéo, Super Mario, un jeu vidéo, un peu d'action. Et puis ensuite, deux heures après, il va au lit. Et ça va. On enregistre l'activité de son sommeil. On s'aperçoit que ça suffit à perturber son sommeil, notamment les phases de sommeil profond qui sont un peu plus courtes. Et le lendemain, au lieu d'avoir retenu 80% des mots, un peu plus de 80% de ce qu'il a appris, comme dans la condition normale où il n'a pas joué, il va en retenir que la moitié. Parce que ça a perturbé son sommeil et la mémorisation. Et pourtant, il ne sera pas visiblement perturbé. Donc, c'est des choses, des fois, qui sont un peu subtiles. Donc, pas le soir. Voilà. Une autre chose qui est importante, pas deux choses à la fois. Soit il regarde son écran, soit il fait autre chose. Soit il fait ses devoirs, soit il est sur Facebook. Soit il regarde la télé, soit il fait ses devoirs. Parce que, vraiment, pour faire souffrir le cerveau, le fait de l'habituer constamment... Alors, je sais bien qu'on nous vend ça comme un trait caractéristique extraordinaire, mais il y a une chose pour laquelle le cerveau humain n'est pas fait, peut-être dans quelques centaines de milliers d'années, mais pas pour l'instant, c'est faire deux choses à la fois. Et ça, vraiment, ça crée des problèmes aussi d'inattention, de distractibilité. Donc, un autre conseil, c'est pas deux choses à la fois. Et ce qui est intéressant, c'est que ces petits conseils, ça marche. Ça marche quand c'est expliqué. C'est-à-dire, si vous dites au gamin, pas d'écran, comme ça, ici, c'est Staline, voilà, ça va pas marcher. Voilà. En fait, ça va marcher très mal. Il y a une étude qui montre que si vous faites ça, les gamins regardaient en moyenne 3 heures, ils ont perdu 10 minutes, un quart d'heure, mais pas grand-chose. Par contre, si vous lui expliquez pourquoi, parce qu'il y a des problèmes de sommeil, parce qu'il y a des problèmes à l'école, parce qu'il y a des problèmes d'obésité, on ne va pas parler, etc. Et puis, en lui expliquant les règles, en se mettant d'accord avec lui sur ces règles, dans cette étude-là, juste des règles très simples comme celles qu'on vient d'énoncer, pas le soir, pas le matin, pas quand on est ensemble.
Pas pendant les repas aussi, hein, vous parlez d'obésité.
Pendant les repas, oui, quand on est ensemble, pas pendant les repas.
Parce qu'on voit un truc, on voit quelque chose, Michel. Michel Desmurgés, on voit qu'un enfant, par exemple, tu veux pas manger ta soupe, ah ben attends, je te mets un petit dessin animé. J'ai fait le test sur ma fille, en fait, hein, enfin le test. Elle mange. Et en fait, je pense que je peux lui donner des litres de soupe, elle va les manger. Et donc. Oui, mais d'où... Non, mais elle ne le regarde plus, c'est terminé. Mais d'où le lien entre écran et obésité aussi, du coup?
Oui, alors il y a ça, il y a le fait qu'on mange beaucoup plus, il y a le fait qu'on se rappelle moins ce qu'on a mangé, donc on remange encore beaucoup plus au repas d'après. Il y a l'exposition aux publicités, qui est aussi un facteur important d'obésité. C'est-à-dire, quand on compare des enfants qui regardent des chaînes commerciales et des chaînes non commerciales, on s'aperçoit qu'il y a plus d'obésité chez ceux qui sont exposés à ces publicités. Il y a la sédentarité. Vous savez, il y a le test de Cooper qu'on faisait à l'école quand on était gamin, on court 20 minutes ou un quart d'heure autour.
Quelle horreur, ce test.
Les gamins, ils ont perdu en 30 ans, on a perdu quasiment 25% des capacités pulmonaires des gamins. Et ça a des incidences en termes de santé publique qui sont majeures à l'âge adulte en termes de risques cardiovasculaires et autres, parce que ce système se développe pas bien. Voilà, on montre que dès une heure par jour d'écran chez un enfant de 5 ans, son système cardiovasculaire va pas bien se développer. Ses artères notamment vont avoir un diamètre plus fin. Donc c'est des choses qui sont sont subtiles. Mais quand on explique aux enfants, je voulais dire, c'est que de 3 heures, ils sont passés à 1h30. Alors 1h30, c'est pas génial, mais ce qu'il faut dire aux parents, c'est que l'idée, voilà, les vidéos, c'est 1h00, voire 1h0. Mais il vaut mieux 1h30 que 3h. Et chaque petit pas dans cette affaire est quand même appréciable à gagner. C'est-à-dire qu'un gamin qui était à 3h, même s'il passe pas à 1h, même s'il passe à 1h30, c'est déjà un chouette gain pour les parents. Après, il s'agit pas de culpabiliser les parents. Je veux dire, je comprends qu'on rentre le soir, on est tout seul, il faut faire la lessive, la vaisselle, faire à manger, s'occuper, faire les comptes, et le gamin il court partout. Bah, de temps en temps, on est tenté de lui mettre un dessin animé, ça peut s'entendre aussi. Évidemment, on a tous des contraintes de vie. Voilà.
Mais c'est à éviter, quoi qu'il en soit. Vous disiez tout à l'heure, on a une dernière question puisqu'on arrive en fin d'émission, mais à partir de quel âge acheter un téléphone à son enfant ? On a 20 secondes pour conclure.
Le plus tard possible. Je dirais que si vous voulez lui acheter un téléphone parce que vous êtes inquiet, il n'a pas besoin. Si vous lui filez un smartphone, il aura accès à tout dans le monde. Tout ce
c'est
qu'il y a
ça qui est dangereux.
De positif, mais tout ce qu'il y a de dangereux. C'est-à-dire que vous ne lui laissez pas accéder à un gamin, à un sex shop, vous ne lui laissez pas accéder à ce genre de choses. Si vous lui filez un portable, il aura accès à tout. J'étais l'autre jour devant l'école primaire de ma fille et il y en a un gamin de 8 ans. Hein. Il était en train de regarder une vidéo pornographique, mais c'est un truc de dingue. C'était pas le vieux porno à la maman. C'était un truc. Non, mais c'était un truc SM, scatologique, où la femme se faisait fouetter. On pourrait parler du sexisme, de l'image de la femme, mais c'est des trucs de dingo. Si vous voulez lui offrir un téléphone parce que vous êtes inquiet, bah filez-lui un vieux truc comme moi j'ai à clapet, vous voyez, ça sonne, ça téléphone.
Voilà,
ça
un 3210 avec SMS, le Snake au mieux.
Ils n'ont pas besoin, non, mais ils n'ont pas besoin. Enfin, pourquoi un gamin aurait besoin de ça ? Après, il y a l'histoire qui inquiète les parents du paria social. Et je voudrais dire aux parents qu'il y a deux choses. Les enfants, les ados vont vous dire « Ouais, je vais être un paria social, on ne parlera plus. » Aucune étude ne le montre. Il n'y a aucune étude qui montre que le fait de ne pas en avoir a des effets négatifs. Et moi, j'ai la chance d'avoir des étudiants et certains sont plutôt cortiqués. Et évidemment, maintenant, bah, ils me chambrent, comme ils savent que j'ai écrit ça sur les écrans, ils viennent se moquer de moi. Et il y en a beaucoup, par contre, qui m'ont dit « Bah, moi, j'ai eu des problèmes avec mes parents. Ils n'ont pas voulu. Ils ont tenu bon. Je leur en ai voulu. Ça a été tendu à la maison. Mais qu'est-ce que je les remercie maintenant ?»
Bah oui.
Et je pense que c'est souvent ça. Je pense que des fois, voilà, faire plaisir tout de suite aux gamins, c'est pas toujours ce qu'il y a de mieux. Et les gamins, après, ils comprennent, quoi.
Ben oui.
Et moi, j'ai tous ces gamins-là qui viennent me dire « Qu'est-ce que je peux remercier mes parents ? Qu'est-ce qu'ils ont bien fait ?» Et je trouve que juste ça, ça justifie parfois qu'on tienne un peu le morceau. Ouais.
Oui, il faut. Merci beaucoup, Michel Démurger. On est en fin d'émission. Hein, mais Michel Démurger, docteur en neurosciences, qui a publié La fabrique du crétin digital, que je vous conseille. Un danger des écrans sur nos jeunes enfants. C'est aux éditions Seuil.